Vous écoutez
RMC.
Mercredi 7 décembre,
l'info sur RMC.
Il est 7h sur RMC et RMC Story. Très très belle journée à vous tous. Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les efforts commencent à payer. Consommation d'électricité en forte baisse de 8% sur une semaine. Vous saurez tout d'ailleurs du recadrage d'Emmanuel Macron sur les coupures de courant. Les prix des transports qui vont augmenter l'année prochaine. Toute la France est concernée. Et Maroc-Portugal en quart de finale du Mondial ce week-end. Énorme fête au Maroc. RMC est sur place au lendemain de cette qualification historique.
Les Français font des efforts et ça se voit.
Je baisse, j'éteins, je décale. Le gouvernement nous répète ça depuis la rentrée. Et bien visiblement, le message est passé. Romain Houck pour RMC. La consommation d'électricité continue de baisser, plus de 8% sur une semaine, selon les tout derniers chiffres de RTE.
Oui, et la nouveauté, c'est que cette diminution, elle concerne désormais tous les secteurs, nous dit le gestionnaire du réseau électrique en France. Depuis cet automne, c'était plutôt les entreprises qui avaient freiné leur consommation, surtout à cause de l'explosion des prix de l'énergie. Aujourd'hui, on voit que le secteur résidentiel et tertiaire commence également à jouer le jeu de la sobriété. Pour cette branche, c'est moins 7% de consommation électrique la semaine dernière par rapport à 2020. Concrètement, ça veut dire qu'à la maison, les petits gestes des Français pour économiser de l'électricité commencent à payer. Même chose dans les bureaux d'entreprise et les commerces de distribution. Un recul qui est d'autant plus significatif qu'il intervient alors que l'hiver, lui, est bien arrivé. Il a parfois fallu mettre ou remettre le chauffage. Et pourtant, tout secteur confondu, la consommation électrique a baissé de 8,3% la semaine dernière.
Alors, est-ce que cette baisse de la consommation d'électricité permettra d'éviter les coupures de courant cet hiver? C'est la grande menace que nous répète le gouvernement depuis une semaine. Mais changement de ton soudainement hier d'Emmanuel Macron.
Le rôle des autorités publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Stop à tout ça. Les scénarios de la peur, pas pour moi.
Voilà, pas pour lui, le président fustige les scénarios de la peur. Jérémy Trottin, chef du service politique RMC, on est là sur un recadrage du gouvernement et des opérateurs de l'énergie.
Oui, une déclaration pour siffler la fin de la récréation et pour en recadrer plus d'un, explique un conseiller. Premier visé, le porte-parole d'Enedis qui déclarait lundi soir que les personnes sous respirateur pouvaient être ciblées par des coupures d'électricité. Déclaration qui a entraîné ensuite de vives critiques de la part des oppositions. Le chef de l'État qui, selon son entourage, a aussi voulu pointer les Marine Le Pen ou encore Éric Ciotti qui instrumentalise les scénarios de la peur. Un message également adressé à son gouvernement, estime un parlementaire après des messages parfois alarmiste. Nous avons nous-mêmes créé un sentiment de panique, reconnaît cet élu. Hors de question cependant de lever le pied sur les messages de prévention, cet exercice de transparence et d'anticipation s'impose, explique un communicant. Le gouvernement qui assure qu'aucune personne sous respirateur ne sera laissée sans solution en cas de coupure.
Voilà, et conséquence, le discours change maintenant chez les opérateurs qui tempèrent à leur tour leur discours. Pas certain qu'on ait besoin de coupure, nous dit finalement RTE. Les Français s'y préparent et s'équipent quand même. C'est une information RMC ce matin. Les ventes de réchauds et de lampes torches ont été multipliées par 10 sur les 10 derniers jours dans les magasins aux vieux campeurs. Autrement dit, on se prépare à des coupures qui dureront 2 heures maximum. À l'heure de cette sobriété énergétique, des efforts aussi pour la planète, eh bien sachez que les prix des transports en commun vont augmenter l'année prochaine. À Paris, le pass Navigo va prendre 9 euros pour passer à 84 euros et 10 centimes. Les 90 euros qui étaient redoutés sont évités avec une enveloppe de 200 millions d'euros de l'État à verser à Île-de-France Mobilité. Mais c'est toute la France qui est concernée, Martin Cadoret.
Oui, à Lyon, au 1er janvier prochain, le ticket va passer d'1,90€ à 2€. L'abonnement mensuel sans réduction sera vendu, lui, à 69€, 3€ de plus qu'auparavant. Augmentation à Nice aussi, plus 10% pour les abonnements sur le réseau Ligne d'Azur, 34€ de plus sur l'abonnement annuel, soit 360€. Le ticket, lui, prend plus de 7% et atteint 1,70€, hausse qui entrera en vigueur en juillet prochain. Dans le même temps, les trams s'arrêteront une heure plus tôt en semaine. La métropole explique devoir trouver de nouvelles recettes face à la hausse des prix de l'énergie. Enfin, La Rochelle met en place une solution originale début 2023. Le ticket sera plus cher si vous payez en espèces 1,50€ au lieu d'1,30€ actuellement et moins cher 1,20€ si vous payez via votre smartphone.
Il est 7h04 sur RMC et verdict attendu mardi prochain au procès de l'attentat de Nice en 2016 sur la promenade des Anglais. Des peines allant de 2 ans à 15 ans de prison ont été requises hier contre les 8 accusés, 15 ans contre les 3 principaux accusés pour leur lien supposé avec l'assaillant. Mais aucun d'entre eux ne peut être considéré comme l'auteur de l'attentat. Voilà ce que dit l'avocat général. Les proches des 86 victimes sont déçus de ce réquisitoire, comme ses parents qui ont perdu leur fille le 14 juillet 2016.
Mais nous, on a perdu nos enfants, nous. Nous, on se prend perpète, nous, hein. Qu'est-ce que c'est 15 ans? Qu'est-ce que c'est 20 ans? Il est jeune.
Mais nous, elle est où notre fille? Où elle est la justice là? Et eux, ils sont là, ils prennent que 15 ans.
On suit le procès depuis le 5 septembre. Dans la tête, c'est... On est nourri, on dort procès, on est nourri procès. Je m'attendais à quelque chose, voilà, de lourd pour donner un exemple.
On s'y attendait, que ça allait être on allait être déçus, mais pour moi, ça me fait un choc. Et on est détruits là. Moi, je vous le dis, je suis détruit là.
Garde à vue levée pour Norman Tavo, le youtubeur aux 12 millions d'abonnés, soupçonné de viol et de corruption de mineurs, si plaignante dans cette affaire. Il n'est pas poursuivi à ce stade, mais la police continue son enquête. L'info de la matinée nous vient de Chine, qui annonce un allègement général des règles sanitaires. La fin, par exemple, des tests PCR à grande échelle. Cela intervient dans un contexte de contestation inédite en Chine, contestation partie d'un incendie mortel. Il y a une dizaine de jours, les secours n'avaient pas pu intervenir rapidement à cause des restrictions.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Et les mêmes images de fête sur les Champs-Élysées à Paris, hier soir sur le Vieux-Port à Marseille, place Bellecour à Lyon. La communauté marocaine a célébré jusqu'à tard hier soir la qualification historique du Maroc en quart de finale du Mondial après avoir battu l'Espagne au tir au but. Le roi Mohamed VI est carrément descendu dans la rue hier soir au Maroc pour parader au milieu de la foule qui était énorme à Casablanca, à Tanger, à Rabat, à Nador aussi, où l'envoyé spécial de RMC, Mao Baker Granier, nous raconte cette soirée de folie.
Et les Marocains se sont pas trompés en chantant le nom de leur gardien héroïque Yassine Bounou qui les a délivrés au bout du suspense. Et au moins d'une minute, les cafés sont désertés et les boulevards inondés de drapeaux rouges et de joie marocaine au milieu du bruit des klaxons. Hannes, 14 ans, perd ses mots.
Je suis heureuse, je suis satisfaite, c'est beaucoup.
Ça te donne envie de pleurer?
Beaucoup. Bravo les Lions de l'Atlas et d'Imam Gharib.
C'est le premier quart de finale de l'histoire du Maroc et même d'un pays du Maghreb.
Je ne peux pas expliquer mon sentiment parce que, wallah, on est vraiment fiers de notre équipe. Tous les Arabes sont fiers de l'équipe marocaine. On a gagné.
Pas question de s'en contenter pour Mohamed. Cette fête, c'est rien du tout, dit-il, par rapport à ce qui les attend.
Je préfère ajourner cette fête à la finale du Coupe du Monde. Parce que c'est nous qu'on allons gagner cette coupe.
Cette coupe est pour nous.
Vive le Maroc!
Et ils y pensent déjà, si les Marocains arrivent à se défaire du Portugal en quart, c'est contre les Bleus qu'ils pourraient jouer leur place en finale.
Voilà, et le Maroc qui jouera samedi après-midi à 16h en quart de finale donc contre le Portugal. Portugal qui a facilement battu la Suisse 6-1 hier soir avec un triplé du jeune attaquant Gonçalo Ramos qui était titulaire pour la première fois à la place de l'idole, Cristiano Ronaldo, qui était lui relégué sur le banc de touche.
Même dans mes plus beaux rêves, je n'avais imaginé être titulaire et marquer 3 buts. Sincèrement, je n'avais pas de pression particulière par rapport à Cristiano. C'est notre capitaine, il a fait comme à chaque fois, nous motiver, nous encourager. Il m'a apporté son soutien, comme tous les autres joueurs.
Voilà, la belle histoire quand même pour cet attaquant, Gonçalo Ramos. Première titularisation, triplé au Mondial et qualification donc en quart de finale. Il est à la une de la presse portugaise évidemment ce matin.
Oh bah on comprend, ouais, on comprend. C'est le journal de Quentin Vinay, il est 7h08 sur RMC.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour.
Alors Élise, vous avez été contactée par Yann à la fameuse adresse rmcpourvous@rmc.fr. Ce matin, vous nous révélez une arnaque au bon de paiement que l'on achète en bureau de tabac.
Oui, en juillet dernier, Yann apprend que sa voiture ne passera pas le contrôle technique. Il est alors en pleine recherche d'emploi et a donc besoin d'en racheter une rapidement. Un ami lui partage une annonce trouvée sur Facebook, une Citroën Berlingo de moins de 150 000 km à 750 euros. Il saute sur l'occasion et entre en contact avec la vendeuse qui fait tout pour le mettre en confiance.
La première chose, c'est donc je suis malentendante, donc on va échanger que par SMS. Et puis petit à petit, ça arrive au fait qu'elle n'a pas de compte bancaire, donc elle va être payée via ses bons qui permettent de provisionner sa carte Tonio First. Et comme j'étais pressé par le fait que ma voiture n'allait plus rouler et que j'en avais besoin, moi, d'une voiture pour me déplacer, j'ai plongé.
Tonio First, oui, absolument. C'est un service qui permet d'avoir une carte bancaire sans compte bancaire. On peut la recharger notamment via des coupons qui se trouvent en bureau de tabac. Yann en achète pour 500 euros. La vendeuse de la voiture lui envoie un lien d'authentification. C'est selon elle pour vérifier la validité des bons. Le site ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Tonio First, mais c'est un faux. Il permet aux escrocs de récupérer toutes les données de Yann, y compris le code confidentiel qui permet d'utiliser ses bons. Et évidemment, Yann ne verra jamais la la couleur de sa voiture.
Et il n'est pas la seule victime de ces arnaques.
Oui, à tel point que Tonéo First a dédié une page entière de son site internet à la sensibilisation de ses utilisateurs. Fraude aux coupons, ne soyez pas la prochaine victime, avec carrément des cas de figure et des témoignages de particuliers et entreprises qui sont tombés dans le panneau. D'ailleurs, on a découvert que les buralistes étaient eux aussi la cible de ces arnaques. Et encore une fois, la mécanique est bien rodée, explique Philippe Coy, le président de la Confédération des buralistes.
Ils sont très malins. Je crois qu'aujourd'hui, ces gens sont des génies. Ils pourraient écrire des scénarios pour faire des séries télé parce qu'ils ont une procédure d'approche en douceur. Ils nous appellent tout simplement pour dire que c'est tel opérateur qui veut vérifier la maintenance, comme on peut l'avoir sur d'autres appareils, et qui nous demande, à titre de vérification, d'émettre un coupon et de donner par là même le code de rechargement. Et une fois que vous avez donné le code, vous avez transmis l'argent.
Selon lui, des centaines de buralistes seraient victimes de cette arnaque.
Et qui répond fameux Tonéo First?
L'entreprise admet être au courant de toutes ces arnaques, précisant au passage pour se dédouaner qu'elle n'est pas la seule concernée. C'est notre quotidien de faire face à la créativité des escrocs, nous dit-on en interne. Tonéo First a engagé un audit sur ce sujet qui doit se terminer d'ici quelques semaines.
Et pour notre auditeur?
Alors là, je crois que c'est la meilleure partie de cette histoire. D'après Tonéo First, Yann aurait une chance incroyable puisque grâce à un bug technique, l'argent n'aurait pas vraiment été débité de ses coupons. L'entreprise va donc lui rendre sa mise et ça tombe bien puisque Yann a dû se racheter une voiture et il a depuis retrouvé du travail.
Retrouvé du travail, donc on est content. Il a retrouvé ses sous, il a retrouvé une voiture et il a retrouvé du travail. Donc Yann est comme lui, vous écrivez à l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr. Il est 7h11.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le Navigo, le Pass Navigo va augmenter de 12% au 1er janvier, plus de 84 € par mois. Est-ce que c'est supportable pour tous les usagers, ceux qui prennent les transports en commun en Île-de-France? On en parle tout de suite avec Arnaud Bertrand. Bonjour, vous êtes le président d'une association d'usagers. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h13, vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Bonjour Arnaud Bertrand.
Bonjour.
C'est vous le témoin du jour, vous êtes le président de l'association d'usagers Plus de Train. Et ce matin, vous êtes en colère parce que le tarif du Pass Navigo va bien augmenter. Le tarif mensuel passera à 84,10 € au 1er janvier 2023. Une augmentation de 12%. Le ticket de métro à l'unité, alors que ce sera plus forcément un ticket papier, mais enfin qui s'appellera toujours ticket, lui passe de 1,90 € à 2,10 €. Et encore, on limite la casse puisque l'État a dit qu'ils allaient mettre 200 millions d'euros au pot. Est-ce que ces très fortes augmentations donc sont supportables et justifiées?
Bah écoutez, elles sont lourdes. On n'a jamais eu une augmentation aussi lourde de nos tarifs. D'habitude, les tarifs augmentaient de 3 € par an sur un Pass Navigo à 70, ce qui peut s'entendre parce qu'on veut des transports de qualité, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc ça a un coût. En revanche, là, il y a vraiment un coup de bambou où tout d'un coup, les gens vont payer beaucoup plus cher dans un contexte où tout augmente. Et donc, il y a des gens pour lesquels ça va être très difficile. La vie en Île-de-France est beaucoup plus chère qu'ailleurs en France. Et par ailleurs, on a là-dessus un message écologique qu'on ne comprend pas. On nous dit laissez plutôt la voiture au garage pour prendre les transports collectifs. Et c'est quoi la conséquence? C'est des tarifs qui montent au plafond.
Donc des tarifs qui montent. Aujourd'hui, il est à 75,20 € le tarif mensuel du Navigo. Il sera donc demain à 84,10 € pour des services qui se dégradent.
Oui. C'est-à-dire que le parallèle qui est fou, c'est qu'on n'a jamais connu une situation aussi dégradée. On peut attendre son bus une demi-heure, une heure en banlieue, parce que la situation est dure à Paris, mais elle est de plus en plus dure. Plus on s'éloigne de Paris, plus on va en banlieue, en grande couronne. Et le métro, les rames sont bondées, les RER, le B, le D sont toujours aussi compliqués. Et donc, on a un effet ciseau entre une augmentation des tarifs très forte, comme rarement, qui est le fruit d'un psychodrame, mais qui a été dingue entre Valérie Pécresse et le gouvernement, des batailles de chiffonniers qui sont
indignes.
En fait,
on a l'impression qu'à chaque fois qu'on pointe ce problème, notamment le problème, effectivement, de l'attente entre chaque bus ou chaque rame de métro, si vous dites ça à la RATP, ils vous disent c'est pas nous, c'est Valérie Pécresse. Si vous dites ça, Valérie Pécresse, elle dit c'est pas nous, c'est la RATP. Personne n'assume.
C'est notre lot d'associations d'usagers de savoir qu'il y a plein d'acteurs qui adorent se renvoyer la balle et justement d'essayer de travailler avec les élus locaux, les maires, pour qu'on démêle cet imbroglio de responsabilité. Et en fait, qu'est-ce qu'on découvre? Les transports collectifs, c'est quelque chose d'industriel, c'est quelque chose de très lourd. Vous pouvez pas mettre comme ça 50 bus sur une même ligne sans avoir du temps. Il y a eu un gros problème d'anticipation après le Covid de la part de nos dirigeants. C'était difficile, cette crise Covid, elle était compliquée, mais elle n'a pas été bien géré, avec trop de retard pour remettre les métros, pour remettre les bus. Par ailleurs, il y a C'est ça qu'on paye aujourd'hui. Il y a eu toute
une défaut d'anticipation.
Un défaut d'anticipation, des problèmes financiers qui faisaient très peur, dans lesquels on a dit aux opérateurs recrutez moins. Ben, on en voit les conséquences aujourd'hui. Et une ouverture à la concurrence qui existe ailleurs dans tous les réseaux de province, hein, à Bordeaux, à Angers, à Lille. Il y a pas de, on peut passer d'un opérateur à l'autre sans qu'il y ait un drame. C'est quelque chose de tout nouveau en Île-de-France qui nécessite du temps, plus de temps, de pas se presser pour faire ça bien. Et aujourd'hui, ça se fait mal. Et donc, les conducteurs de bus s'en vont. Ils disent, bah, écoutez, si c'est pour travailler plus avec le niveau de vie parisien, bah, autant que j'aille habiter à Lyon ou à Strasbourg. Et donc, il y a une forte pénurie de conducteurs.
Franchement, on les comprend. Donc, on se retrouve dans cette situation où, en fait, c'est l'usager qui est perdant. Que faire? Alors, est-ce que les entreprises, d'abord, doivent rembourser davantage pour pouvoir rembourser cette nouvelle partie du pass Navigo, de l'augmentation du pass
Alors,
Navigo?
Oui, exactement. Il y a eu, de notre point de vue, un petit problème démocratique, c'est-à-dire qu'on dit décentralisation, décentralisation, les transports, c'est la région, je pense que tout le monde l'a en tête, c'est d'ailleurs toutes les régions de France, pour chacun de leurs transports. Simplement, quand Valérie Pécresse, aux manettes, dit « moi j'ai besoin de ressources financières pour les entreprises d'Île-de-France », bien sûr, il s'agissait que ce débat reste francilien, le gouvernement a dit « Oh non, vous voulez augmenter les impôts, c'est vous qui disiez qu'on cramait la caisse, etc.
Bon, » C'est devenu un problème en fait politique.
C'est devenu un problème politique.
Les uns et les autres se renvoyaient la balle sur des questions politiques. Plus globalement, si on dézoome, on voit que ce problème, en effet, notamment de recrutement, il est partout. Il y a eu cette difficulté, notamment sur la ligne Paris-Limoges. Paris-Limoges, avec le groupe Legrand, qui est un des derniers groupes du CAC 40 qui garde son siège en dehors de Paris, et en l'occurrence à Limoges. Il y a des trains qui ont été supprimés, notamment le train de 6 heures qui permettait d'arriver à Paris. Est-ce que la SNCF, est-ce que l'État répond quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir une solution?
Non, mais qu'on soit sur des trains intercités qui sont très importants dans les territoires, qu'on soit sur les trains de banlieue en Île-de-France ou sur les bus à Paris, on voit que le problème est le même, c'est-à-dire que nos politiques ont énormément de mal à être constants dans la logique du train du quotidien. Qu'il s'agisse du trajet pour l'entreprise Legrand qui doit aller voir des clients ailleurs en France ou qu'il s'agisse de celui en banlieue qui galère, effectivement, ça passe après des routes, des subventions de carburant significatives, des aéroports qui sont très préservés alors, et des lignes de TGV qu'on continue à construire alors que la priorité, c'est nos trajets de tous les jours en polluant aussi peu que possible.
8 milliards d'aides pour le carburant et là, les 200 millions qui vont être donnés à Île-de-France Mobilité, ils l'ont été vraiment après de nombreuses tractations.
Rien des problèmes de fond.
Aucun des problèmes de fond et malheureusement un système dont on le sent bien, il est de plus en plus dégradé. Arnaud Bertrand, merci d'être venu dans ce studio. Vous êtes le président de l'association d'usagers Plus de Train. Il est 7h19.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À 7h40, l'invité du jour, ce sera Manuel Bompard, le député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Il réagira aux propos d'Emmanuel Macron qui fustige les scénarios de la peur sur les coupures de courant cet hiver. Et avant cela, il y aura l'œil d'Emmanuel Le Chypre sur l'économie, le e-commerce qui souffre aussi de l'inflation et puis Arnaud Demanche qui pirate le 32-16.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Les indiscrets, le rendez-vous du service politique d'RMC. Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour.
Hélène, c'est la guerre des oppositions à l'Assemblée nationale. RN et LFI se déchirent sur la réintégration des soignants non vaccinés.
Et le comble, c'est qu'ils sont d'accord. La preuve, le RN a voulu faire un coup encore. Hier, le groupe a présenté les textes qui figureront dans sa niche parlementaire. Seul jour réservé aux propositions de loi du RN. Et parmi elles figure la proposition de loi des insoumis sur la réintégration des soignants. Rappelez-vous, l'examen de ce texte avait provoqué une nuit de tension à l'Assemblée. Il n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Le RN a décidé de reprendre le texte tel quel. Dans l'intérêt des soignants, disent-ils, dans leur intérêt politique aussi, ils savent qu'ils mettent mal à l'aise LFI qui a toujours refusé de voter un texte soutenu par le RN.
LFI a réussi à sortir ou pas de ce piège?
Eh bien, hier, en commission, les députés ont rejeté la présence d'un co-rapporteur RN sur le texte. Seule l'insoumise Caroline Fiat, à l'origine du texte, reste rapporteur. Elle a donc le choix, soit retirer le texte. Dans ce cas, le RN a déjà sa ligne de défense. Elle ira expliquer ça aux soignants, soit défendre le texte en séance, en pleine journée, dédiée au RN. C'est l'option privilégiée par Caroline Fiat. Le RN m'offre du temps parlementaire, c'est Saint-Nicolas, disait-elle hier. Côté RN, on sera sûr, si la loi passe, ce sera grâce à nous.
C'était les indiscrets d'Hélène Terzian, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23, c'est l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, Emmanuel, comme les magasins traditionnels, les acteurs du e-commerce souffrent
il souffre en France, oui. Surtout après 2 ans d'euphorie.
Exactement, hein, en témoigne le succès en demi-teinte du Black Friday, une étude réalisée par Web Loyalty à partir des ventes des 37 plus gros sites de e-commerce, eh bien, montre que le volume global d'achat effectué lors du Black Friday a diminué de 14% par rapport au Black Friday 2021 et la baisse atteindrait sur l'ensemble du mois de novembre et ça confirme une tendance amorcée depuis que l'inflation s'est accélérée en début d'année puisqu'au troisième trimestre, les ventes de produits en ligne ont reculé de 2%. Donc il y a bien un effet inflation, il y a aussi l'effet correction post-Covid, mais finalement on a repris plus qu'on le pensait nos vieilles habitudes.
Et le recul, il touche aussi l'achat des produits alimentaires.
Oui, c'est absolument étonnant. Cette désaffection du e-commerce, elle semble aussi concerner notamment les drives. Hein, alors que les hypermarchés, les supermarchés, la proximité devraient connaître une hausse du chiffre d'affaires avec l'inflation, eh bien Nielsen IQ nous dit que les ventes en drive, qui représentent quand même l'immense majorité du e-commerce, vont baisser en 2022. Pourquoi ? Parce que pour profiter d'un maximum de promos, les clients préfèrent aller directement dans les magasins.
Et se rendre compte aussi de ce qui passe
comme
économie.
Ce sera pareil, hein, y a des sondages qui montrent, notamment celui de Bonial, que va y avoir moins de clients qui vont aller cette année sur les sites internet par rapport à l'année dernière.
Les gens retournent dans les magasins. 7h25, Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
Attention.
Demanche
pirate,
le 32-16. Bonjour Arnaud, ce
Bonjour
qui fait réagir ce matin. Eh ben, ce sont les menaces de coupure de courant.
Toujours. Alors Emmanuel Macron s'est fâché hier. Il a dit stop à la panique et ça fait réagir, à commencer par Benjamin Duhamel. Vous savez, notre éditorialiste politique de 19 ans, celui qui est surdoué là. Il a beaucoup d'humour, hein, Benjamin Duhamel, faut pas croire. Il a d'ailleurs monté un spectacle comique avec Alain Duhamel et Patrice Duhamel, intitulé Le Duhamel Comedy Club, parrainé par Duhamel Debbouze, évidemment. Comment ça fait plaisir de vous voir ! Bienvenue au Duhamel Comedy Club. Aujourd'hui, on va parler d'Edouard Balladur en 93. Bon, voilà, c'est ce genre-là. J'ai jamais fait une aussi mauvaise imitation à l'antenne, je crois. Et alors, Benjamin a bien voulu interrompre sa partie de Zelda Breath of Wild alors qu'il était en pleine bataille contre la créature divine dans le désert Gerudo. Et il nous a laissé au 32-16. De ce qu'on sait, Paris sera moins touché que la province par les délestages, donc aucun risque de voir les métros ou les RER à l'arrêt à cause des coupures de courant. Tout se passera comme d'habitude. Ils seront à l'arrêt à cause des grèves, des travaux, des feuilles mortes. Donc aucun changement majeur à signaler. Pardon. Éric Zemmour nous a laissé au 32-16. Les immigrés consomment du courant en se chauffant, en cuisinant, en regardant des Marocains célébrer leur victoire contre des Occidentaux. Et en plus, c'est même pas l'équipe du Maroc. Les trois quarts sont nés chez nous. C'est juste l'équipe de France de ceux qu'on n'a pas voulu. Et en plus, ils dégagent du dioxyde de carbone en respirant. Pratiquons les délestages en Seine-Saint-Denis ou à Marseille pour ne pas handicaper les vrais Français. C'est un tropisme hein, qu'il a, celui-là. En plus, il n'y a pas de courant, les gens ne pourront pas regarder CNews. Même l'électricité est gauchiste, Apolline. Ça ne va plus du tout dans ce pays. Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Arnaud Demange, 7h20, 8h20 et en podcast, évidemment. À tout de suite pour la météo journal. 7h30 sur RMC et RMC Story. Excellente matinée à vous tous. Le journal de Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. À la une, le froid est là, mais les efforts payent. Notre consommation d'électricité recule de plus de 8%, nous dit ce matin RTE. Nicolas Sarkozy face aux écoutes, les enregistrements téléphoniques diffusés hier à son procès pour corruption. Et puis, les Portugais impressionnants, 6-1 hier soir face à la Suisse et sans Cristiano Ronaldo.
Les appels à la sobriété semblent produire leurs effets. Notre consommation d'électricité recule.
Et peur de la coupure ou peur de la facture. Nous avons consommé 8% d'électricité en moins la semaine dernière. Tendance observée depuis 4 semaines et qui s'amplifie malgré l'arrivée du froid. Des efforts parfois contraints et forcés, comme pour ces étudiants au budget serré rencontrés à Lyon par Vincent Chevalier pour RMC.
Je voulais pas craquer, mais j'ai craqué.
Avec l'arrivée du froid, Lise Martin a finalement rallumé ses radiateurs, un peu contre sa volonté.
Je m'étais dit, en janvier, je commence à chauffer. J'ai craqué, là, c'est ces dernières semaines.
En colocation, avec peu de moyens, cette étudiante en communication a revu ses habitudes.
J'essaie de faire moins de sorties étudiantes pour compenser tout ceci.
Surtout que son appartement est une passoire thermique et consomme énormément, comme celui de Chloé.
Les fenêtres sont mal posées, du coup il y a tout l'air qui passe. Et donc on essaie de camoufler comme on peut, mais avec des pulls. des vieux pulls, des pulls de Noël, enfin voilà.
Chez Marie et son copain, l'heure est aussi à la sobriété énergétique et pas forcément par choix.
Mon compagnon, il a été licencié il y a quelques mois et moi je suis encore étudiante, donc j'ai un job étudiant, mais on n'a pas des revenus qui volent. Très haut.
Il faut donc trouver des astuces pour compenser la baisse du chauffage.
Il veut que quand on soit pas à la maison, on éteint. La nuit, on se couvre beaucoup plus. Alors on sert mieux de tisane le soir, les chocolats chauds et les plats chauds aussi.
D'autres étudiants fréquentent un peu plus les bibliothèques universitaires pour ne pas travailler dans le froid à la maison.
Et le gouvernement continue de préparer les esprits au risque de coupure de courant, mais sans se faire peur. C'est la consigne qui a été martelée hier par Emmanuel Macron. Coup de gueule du président contre ceux qui, je cite, alimentent les fausses peurs avec des scénarios absurdes. Dans le viseur, certaines autorités, mais aussi les oppositions. Écoutez le député Renaissance Sylvain Maillard.
Ce que nous souhaitions, c'est que les Français s'engagent dans une sobriété, que nous engagions collectivement dans une sobriété, ce qui est le cas. Il faut que ça continue durant tout l'hiver et chacun fera les efforts pour que le système tienne. Mais là, on voit bien que depuis quelques jours, c'est le concours de la fake news sur telle ou telle peur qui pourrait arriver. Et donc, on dit stop. À un moment, il faut arrêter. C'est normal que le gouvernement travaille à des solutions au cas où. Mais redire que nous sommes confiants sur le fait que le système électrique tiendra tout l'hiver.
Et notez deux réactions politiques. La première, ce sera Manuel Bompard, l'invité de 7h40, juste après ce journal, le député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Et puis la ministre Agnès Pannier-Runacher, qui sera mon invité à 8h30 sur RMC BFM TV.
L'énergie plus chère, c'est aussi les transports du quotidien qui explosent. En Ile-de-France, ce sera 12% d'augmentation. Le Navigo mensuel coûtera 84,10 € en 2023. C'est maintenant confirmé. La région de Valérie Pécresse menaçait d'aller à 90. L'État a finalement versé 200 millions d'euros. Geste exceptionnel, insiste le ministre des Transports. Les transports perturbés aujourd'hui à la SNCF. Attention, pression des cheminots au premier jour des négociations salariales. Des perturbations limitées, mais les TER sont affectés dans plusieurs régions, notamment en PACA, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie, en Île-de-France aussi, et les TGV sur l'axe Paris-Lyon et au sud de Bordeaux. Il est 7h34 sur RMC, moment inédit hier au procès de Nicolas Sarkozy, l'ancien président, devant la cour d'appel de Paris pour corruption et trafic d'influence. Les enregistrements des fameuses écoutes téléphoniques ont été diffusés, des conversations avec son avocat tenues sur la ligne au nom de Paul Bismuth. On en connaissait le contenu, elles sont à l'origine de l'affaire, on en découvre maintenant la tonalité, Guillaume Bier.
Au fil des conversations, on perçoit un Nicolas Sarkozy inquiet, soucieux de la saisie de ses agendas dans l'affaire Bettencourt. À l'autre bout du fil, son avocat Thierry Herzog qui fait tout pour le rassurer grâce aux informations fournies par son ami Gilbert Azibert, magistrat à la Cour de cassation. Certes, le fameux pacte de corruption retenu par l'accusation ne saute pas aux oreilles, mais l'idée d'appuyer en retour la candidature d'Azibert pour un poste à Monaco est clairement évoqué par l'ancien président et son avocat. C'est ce qui leur vaut d'être rejugés. Nicolas Sarkozy, qui s'est offusqué en fin d'audience, se disant stupéfait. Toute ma stratégie de défense était écoutée. Est-ce que c'est normal, a demandé à la barre l'ex-chef de l'État, qui dit avoir senti une gêne à l'écoute de ses enregistrements, une impression partagée par une partie de la salle d'audience.
On l'apprend ce matin, la Chine va alléger ses mesures anti-Covid. Elles sont drastiques, réduction notamment des tests PCR à grande échelle et quarantaine désormais autorisée à domicile. Allez, on part à la Coupe du Monde.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Le Portugal a-t-il déjà tourné la page Cristiano Ronaldo? On peut se poser la question ce matin. La Seleção n'a pas eu besoin de son attaquant star pour balayer la Suisse hier soir 6-1. CR7 n'a pas marqué, mais celui qui occupait son poste, oui, Gonzalo Ramos, il signe un triplé. Des supporters portugais ravis évidemment de cette démonstration de force jusqu'à Sartrouville en région parisienne.
Je suis super content de la qualif, score 6-1, rien de mieux, hein, Portugal en quart et c'est top.
Ouais, c'est parfait, c'est vrai que le Portugal, souvent on stresse, souvent on panique, on n'est jamais sûr de nous, mais là, pour une fois, ils nous ont régalé 6-1, un bon match maîtrisé, c'est parfait.
Quand j'ai vu la compo au début de match, Ronaldo sur le banc, ça fait un peu peur. Franchement, je m'attendais à une meilleure opposition en face, mais voilà, il n'y a que des cracks chez nous, donc on a fait un grand match.
Les Portugais à la fête, les Marocains aussi après leur exploit sortir l'Espagne au tir au but, se qualifier pour les quarts de finale, c'est une première historique. La liesse dans tout le royaume, RMC est au Maroc ce matin, rendez-vous à 8h. En attendant, on va au Qatar et on vous emmène dans la fan zone dédiée aux petites mains de ce mondial, les travailleurs immigrés. Un écran géant leur a été installé, mais alors très très loin des stades. Reportage RMC à Doha, Martin Bourdin.
Impossible d'arriver ici par hasard. On est à 14 km du centre de Doha, 25 minutes en voiture, 1 heure en transport. Un stade de cricket transformé en fan zone. À l'intérieur, aucune femme, que des hommes originaires du sous-continent indien ou d'Afrique de l'Est. Ils travaillent dans la sécurité, dans les stades, dans les hôtels. Et s'il n'y avait pas cette fan zone,
suivre les matchs sur nos téléphones portables, ce ne serait pas pareil.
Leurs sourires sont spontanés, sincères. Et même s'ils sont loin du centre de Doha, s'il n'y a que très peu de maillots, aucun drapeau ici, personne ne se sent exclu de la Coupe du Monde.
On a l'impression de vivre le mondial de l'intérieur. On n'est pas mis de côté. On vit cette Coupe du Monde.
Ce n'est pas si loin. Je vis même à 2 km d'ici.
Tous habitent dans cette zone industrielle. À la fin du match, j'accompagne Laoben, un Ougandais de 28 ans. Il me montre sa chambre, une pièce de 10 mètres carrés partagée avec 10 personnes qui dorment sur des lits superposés. Dans la cuisine commune, le strict minimum, que ce soit en équipement ou au niveau de l'hygiène. Là encore, pas question de se plaindre.
C'est très bien, je suis bien ici. Mon logement est pris en charge par mon employeur. En arrivant, je m'attendais à quelque chose de plus grand, mais on s'en satisfait.
Il s'en satisfait aussi parce qu'il sait pourquoi il est venu gagner plus d'argent que chez lui en Ouganda, aider sa famille. Et c'est ce qu'il fait avec son salaire, 350 euros par mois.
Le Quintet Sébastien, c'est à Vincennes.
À suivre à 13h50 sur RMC Découverte. Je vous donne les pronostics de la Dream Team RMC. Le favori, c'est le 4, Gotepsou. L'outsider, c'est l'As Generous Charm.
C'était le journal de Sébastien Krebs. Il est 7h38.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
La colère d'Emmanuel Macron qui fustige les scénarios de la peur. Mais qui fustige-t-il ? Est-ce que ce sont les acteurs publics ? Est-ce que ce sont ses ministres ? Ou est-ce que ce sont nous, les Français ? Je vous pose la question dans un instant. Manuel Bompard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône et vous réagirez évidemment à cette gestion de la crise par l'exécutif. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 sur RMC, bon réveil à tous.
L'invité du jour,
c'est vous, Manuel Bompard. Bonjour. Vous êtes le député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône et on voudrait avoir votre réaction ce matin au scénario de la peur. Les scénarios de la peur, c'est pas pour moi, la France va tenir. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron avec un ton très en colère. Est-ce qu'il vous a rassuré ?
Non, d'abord, si le président de la République est en colère, c'est sans doute contre lui-même qu'il doit être en colère et contre son gouvernement, puisqu'il y a un certain nombre de messages qui sont très contradictoires qui sont envoyés. C'est-à-dire, en même temps, il dit non, il n'y a pas de problème. Et en même temps, il cible celles et ceux qui, selon lui, seraient les responsables de la colère. Et dans le même temps, vous avez des décisions gouvernementales, vous avez des circulaires, vous avez des rendez-vous qui sont organisés par les préfets dans un certain nombre de départements pour organiser la possibilité de ces scénarios de délestage. Donc il faut savoir, soit c'est une hypothèse crédible, soit c'est pas une hypothèse crédible. Bon, moi, il me semble que il y a une impréparation totale, si vous voulez, du gouvernement sur ce sujet qui fait naître des inquiétudes qui sont légitimes et il y a des questions qui sont pas tranchées. Il y a eu cette histoire des patients prioritaires, il y a la question qui est posée des numéros d'urgence, il y a la possibilité, s'il y a des délestages dans certains endroits, qu'on puisse plus avoir accès au réseau téléphonique et aux services d'urgence qu'on peut appeler. Bref, il y a plein de sujets où on se demande quand même pourquoi le gouvernement les a pas.
Donc vous considérez que le fait de poser ces questions, ce n'est pas installer une peur ou une manière de gouverner par la peur ?
Mais non, mais soit ça correspond à une réalité, et dans ce cas-là, il est normal qu'on se prépare, soit ça correspond pas à une réalité, dans ce cas-là, faut pas en parler. Mais si ça correspond à une réalité, il y a un certain nombre de sujets où on se demande pourquoi le gouvernement s'est pas préparé plus tôt. Donc là, voilà, je trouve qu'il y a une communication gouvernementale qui est complètement à côté de la plaque.
Pour vous, c'est contradictoire, mais sur le fond, vous feriez quoi ? C'est-à-dire que si vous vous retrouvez, vous, aux manettes, alors on peut dire, oui, mais c'est parce que ça n'avait pas été anticipé, tout ça, mais enfin, si demain vous vous retrouvez aux manettes, qu'il y a une dissolution, que vous arrivez au pouvoir, vous faites quoi, vous ?
D'abord, l'anticipation, c'est quand même pas un petit sujet. La question qui est posée, c'est quelles sont les politiques de sobriété énergétique et quelles sont les politiques d'efficacité énergétique qui sont mises en place. Je rappelle qu'il y a peu, on a voté à l'Assemblée nationale des amendements pour consacrer 10 milliards d'euros supplémentaires dans la rénovation thermique des logements. Donc, pour faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage.
Cet amendement a été balayé par le gouvernement.
Il y a eu un article 49.3, les amendements avaient été votés majoritairement par l'Assemblée nationale. Ils ont été balayés par Madame Borne. On sait très bien, par exemple, que là, il y a un sujet sur lequel on peut réduire en profondeur la consommation énergétique des logements par des politiques où on rénove, on gaspille moins. C'est un enjeu écologique, ça évite les gaspillages, c'est un enjeu social parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont être confrontés à des factures d'énergie qui vont être exponentielles et qui vont tout simplement pas pouvoir payer. Donc, il y a d'abord un premier sujet, c'est quelle anticipation, quelle politique d'efficacité énergétique.
Une fois qu'on a dit ça, j'entends parfaitement, oui, oui. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même faire tourner le pays et on le fait tourner comment ?
On y répond par des politiques de sobriété, donc par des réductions de consommation, mais là aussi...
Mais là, par exemple, quand on apprend aujourd'hui que les Français, depuis un mois, ont baissé de 8% leur consommation, donc ça veut dire que les Français, ils ont fait un effort, ils se sont serré la ceinture.
Non, mais attendez, les Français, ils sont responsables. Le problème, c'est que c'est toujours le même sujet en matière de sobriété énergétique. Si vous voulez que les gens fassent des efforts, il faut que tout le monde comprenne que ces efforts, ils sont équitablement partagés. C'est-à-dire que on met d'abord...
C'est pas le cas aujourd'hui.
Bah, clairement, quand vous avez, pour donner un exemple qui peut vous paraître anecdotique, mais quand vous avez des immeubles de bureaux qui restent allumés la nuit, quand vous avez des publicités numériques qu'on voit partout dans les grandes villes qui restent allumées à longueur de journée et même parfois la nuit. Alors, il y a eu une circulaire pour dire qu'entre 1h et 6h du matin, on coupe les panneaux publicitaires, mais on peut le faire de manière beaucoup plus générale.
Après, pour vous, on les coupe tout court?
Bah, il me semble que s'il y a une difficulté...
On arrête la pub pendant 6 mois?
Bah, pourquoi pas? Enfin, écoutez, s'il doit y avoir une difficulté d'approvisionnement énergétique, entre fermer l'école le matin pour que, et empêcher les enfants d'aller à l'école ou couper la publicité, excusez-moi, je préfère couper la publicité.
Et les aéroports? Il y a une membre de votre groupe qui était à mon micro hier.
Pas de notre groupe, c'est...
De votre groupe élargi, membre de la NUPES, Aurore Berger.
Sandrine Rousseau.
Sandrine Rousseau, merci, Aurore, vous êtes là. Suis. Manuel Mompard, vous suivez. Sandrine Rousseau qui dit, on devrait éteindre les aéroports. Est-ce que ça vous fait,
j'ai pas très bien compris la proposition. C'est quoi? C'est éteindre la lumière? C'est empêcher les aéroports de fonctionner? Ça, honnêtement, j'ai pas très très bien compris la proposition. Mais en tout cas, moi, je suis pas hostile à l'idée de dire qu'il y a des consommations qui sont indispensables à la vie quotidienne et ça doit être celles qui sont priorisées.
En fait, on revient à la question de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est pas.
Exactement.
Si vous êtes dans une zone industrielle, qu'il y a des enseignes de vêtements, par exemple, et des enseignes alimentaires, vous laissez allumer les enseignes alimentaires, vous éteignez les enseignes de vêtements?
Bah, je sais pas si c'est cet exemple-là qu'il faut prendre, mais je pense que c'est une question philosophique.
La chaussure, non. Leclerc, oui. Enfin,
non,
je veux dire, pardon, mais...
Non, mais si vous voulez des politiques d'effort, de sobriété, pour que ces politiques de sobriété soient suivies, les gens ne doivent pas avoir l'impression que c'est à eux qu'on demande de faire les efforts et à ceux qui ont les moyens de ne pas en faire. Parce que sinon, les gens ne comprennent pas. Donc, il y a des politiques qui doivent être justes. Vous ne pouvez pas dire les écoles, pour reprendre cet exemple, on va les fermer, mais par contre, les stations de ski, il n'y a pas de problème. Parce que sinon, les gens se disent « Bon, moi, dans ma vie quotidienne, je suis impacté, mais celles et ceux qui utilisent, qui sont dans une utilisation de loisirs, eux, on ne leur demande pas de faire des efforts. »
Manuel Mompard, vous êtes élu à Marseille, mais oui. Vous êtes représentant de tous les Français. Le pass Navigo en Ile-de-France qui va augmenter de 12%. Il va passer de 75 à 84 euros et encore 84,10. C'est acceptable, c'est supportable?
Non, clairement pas. Et si on fait le lien avec le débat qu'on venait d'avoir juste précédemment, ça concerne pas peut-être l'électricité directement, mais si vous voulez avoir des politiques de réduction de sobriété énergétique, ça passe notamment par le fait de développer les transports en commun au détriment de l'utilisation de la voiture individuelle. Et donc, vous pouvez pas avoir dans le même temps des signaux qui sont contradictoires avec le fait que prendre les transports en commun, ça va être beaucoup plus cher. Donc là, il y a une responsabilité partagée de la région Île-de-France en l'occurrence et du gouvernement. La région Île-de-France renvoie la balle au gouvernement en disant on n'arrive pas à financer la politique de transport. Le gouvernement dit c'est pas notre responsabilité, il faut que les deux se mettent autour de la table et qu'ils débloquent des financements supplémentaires qui permettent que le pass Navigo n'augmente pas de manière extrêmement rapide. Il y a une situation catastrophique des transports en commun en Ile-de-France, c'est le cas partout, mais en particulier en Ile-de-France, le tarif, mais aussi les rames qui sont totalement bondées.
Un mot quand même sur la niche parlementaire, on a compris désormais ce que c'était les niches parlementaires. Il y avait la vôtre il y a une dizaine de jours, vous aviez mis la corrida, vous aviez mis la réhabilitation des soignants non vaccinés, et là il y a le RN qui vous offre sur un plateau la possibilité de faire passer votre loi, puisque dans la niche parlementaire du Rassemblement National, ils vous donnent la parole, ils vous donnent un moment de leur temps pour que vous puissiez défendre votre position sur les soignants non vaccinés. Vous allez accepter cette main tendue du RN?
On va en discuter, mais d'abord, excusez-moi, la présentation des faits, c'est pas tout à fait ça. Le Rassemblement National a pris la décision tout seul dans son coin de dire qu'il voulait reprendre le texte qu'on avait mis dans notre niche parlementaire.
C'est-à-dire votre texte.
Ils nous ont pas demandé notre avis. C'est eux qui ont décidé tout seul. Donc expliquer qu'il y aurait un accord entre le Rassemblement National.
J'ai pas dit qu'il y avait un accord.
C'est pas ce que vous avez dit, mais
ils vous ont. Oui, mais ils ont mis sur un plateau votre loi.
Il y a certains de vos collègues qui ont dit ça. C'est pourquoi j'en profite pour le préciser. Premièrement, deuxièmement, ce n'est
pas un accord, mais c'est un baiser de la main.
Non, mais attendez, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune possibilité que ce texte soit adopté dans la niche du Rassemblement National pour une très bonne raison, c'est qu'ils ont repris le texte en l'état. Or, le gouvernement y avait déposé plus de 300 amendements. En moyenne, à l'Assemblée nationale, on considère qu'on examine 20 amendements par heure.
Donc, même cause, même effet.
Mais bien sûr, donc il est totalement impossible. Il faudrait 15 heures d'examen de ce texte pour qu'il puisse être adopté. Donc, le sujet n'est pas là. Donc, maintenant, nous...
Mais vous défendrez quand même votre texte?
Non, je ne sais pas.
Pendant le temps de la niche parlementaire RN?
Moi, je
pas
vais,
sûr.
Je vais
si c'était vous, vous ne le feriez pas.
Très précis, je vais vous dire les choses précisément. Je souhaite que le plus rapidement possible, la France décide de réintégrer les soignants suspendus. Tout le monde le fait en Europe. Il reste plus que la Grèce et la France qui le font pas. L'Italie va le faire, l'Allemagne va le faire, tous les autres pays sont en train de le faire. Donc maintenant, je cherche quelle est la meilleure opportunité pour que ce texte soit voté. Et ça ne passera pas par la niche du Rassemblement national. C'est une évidence pour les raisons que je vous ai indiquées à l'instant.
Manuel Bompard, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône,
merci à vous
d'être venu dans ce studio répondre à mes questions ce matin. Il est 7h49.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les Européens se sont mis d'accord hier sur une loi pour exclure les marchandises liées à la déforestation. Nicolas Poincaré nous explique tout dans un instant.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Top Gun Maverick qui est déjà de retour au cinéma.
Ouais, séance de rattrapage, si comme moi vous ne l'avez pas vu, ou bien une nouvelle dose de plaisir, si comme Apolline vous l'avez adoré.
Vous voulez
adoré.
Le revoir.
Et voilà, Top Gun Maverick qui ressort aujourd'hui dans les cinémas Pathé et CGR, plus de 500 salles partout en France. Dernière chance en fait de voir sur grand écran ce qu'on peut considérer comme le film de l'année. Avec près de 7 millions d'entrées, Top Gun Maverick domine très largement le box-office français 2022. C'est d'ailleurs le film le plus vu cette année en France, aux États-Unis, dans le monde. Donc pour décoller une dernière fois avec Tom Cruise en salle, ça se passe à partir d'aujourd'hui et pour une semaine seulement. Et puis votre prochain rendez-vous avec Tom Cruise au cinéma, ce sera au mois de juillet, juillet 2023, pour la sortie d'un nouvel épisode de la saga Mission Impossible.
Vous vous battez pour préserver un idéal qui n'existe pas. Vous devez choisir votre camp.
RMC, Apolline Matin.
Expliquez-nous, 7h52, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Nicolas, les Européens se sont mis d'accord hier pour exclure les marchandises liées à la déforestation. Une loi qui va permettre d'interdire l'importation des produits issus des terres qui ont été gagnées sur la forêt.
Oui, et c'est une première mondiale, une législation qui autorise ou interdit l'importation d'un produit, non pas en fonction de ce qu'il est ou de ce qu'il contient, mais en fonction de son lieu de production. 6 produits sont concernés, le café, le cacao, le bœuf, le bois, l'huile de palme et le soja. L'ambition, c'est qu'à l'avenir, en achetant par exemple du café partout en Europe, vous puissiez être sûr que pour produire ce café, on n'a pas détruit de forêt.
Et comment on pourra avoir cette garantie? Comment on pourra en être sûr?
Alors, ça paraît effectivement compliqué. L'idée, c'est d'obliger les importateurs, mettons de bœuf, à déclarer d'où vient leur produit. Pas de quel pays ou de quelle région, mais précisément sur quelle parcelle les bœufs ont été élevés en donnant les coordonnées GPS. Ensuite, grâce à des photos satellites, on peut vérifier que les terres en question n'ont pas été récemment gagnées sur la forêt. Si les photos montrent qu'avant le 31 décembre 2020, c'est-à-dire il y a 2 ans, les champs étaient déjà des champs, alors le bœuf peut être importé en Europe. Si au contraire, les photos montrent que ces champs, il y a 2 ans, étaient en une forêt, eh bien à ce moment-là, la viande ne pourra pas être importée. Pascal Canfin, qui est le député européen français, qui est un des artisans du texte, donne un autre exemple précis. Danone, le leader mondial des produits laitiers, élève des vaches pour produire son lait et importe du soja pour nourrir ses vaches. Eh bien, Danone devra vérifier que ce soja n'a pas été produit en détruisant des hectares de forêt au Brésil ou en Indonésie. Et si Danone ne le fait pas, le géant de l'agroalimentaire risque une très forte amende qui pourrait atteindre 4% de son chiffre d'affaires en Europe. Pareil pour Ikea, qui devra vérifier le lieu d'origine du bois de ses meubles. Pareil pour Nestlé et son chocolat.
Est-ce que tout ça va pas être une usine à gaz?
Alors, peut-être que si. Peut-être que ce sera une nouvelle norme européenne inapplicable, avec des fonctionnaires payés pour tenter de la faire respecter, et puis des sanctions et des complications qui entraîneront une hausse des prix. Mais on peut aussi avoir une vision plus optimiste et espérer que cette législation ralentira le rythme de la déforestation. L'an dernier, on a détruit au Brésil des forêts sur une surface équivalente à celle de l'Île-de-France, en un an donc. À l'échelle de la planète, c'est un terrain de football qui est détruit toutes les 6 secondes, 10 terrains de football par minute. Et en 30 ans, c'est une surface équivalente à celle de l'Union européenne qui a été déforestée, 420 millions d'hectares. Et l'Europe a une responsabilité importante dans cette catastrophe écologique. Le Fonds mondial pour la nature, WWF, estime que les importations de l'Union européenne sont à l'origine de 16% de la déforestation. L'Europe, par sa consommation, est le deuxième destructeur des forêts tropicales derrière la Chine, mais devant les États-Unis.
Et si cette nouvelle législation se montre efficace, on pourrait aller encore plus loin ?
Oui, c'est ce qui est prévu. Dans un deuxième temps, d'autres produits seront concernés, le maïs, le caoutchouc ou le papier. Les écologistes voudraient aussi que cette législation s'applique pas seulement pour protéger les forêts, mais aussi pour sauvegarder les savanes. Enfin, l'étape suivante, ce serait de demander aux banques ce que l'on demande aujourd'hui à l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire de vérifier qu'elle ne finance pas des projets agricoles qui nécessitent d'arracher des arbres sous peine de sanctions.
C'était les explications de Nicolas Poincaré. Il est 7h55, on l'apprend à l'instant. Le gouvernement va mettre en place une nouvelle indemnité carburant qui va prendre la forme d'une aide. Une aide de 100 euros versée en début d'année à environ 10 millions de personnes. Des personnes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. C'est ce que vient d'annoncer la première ministre Elisabeth Borne. Toutes les précisions dans un instant à la une du journal de 8h.